Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calée ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo,
de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu.
Bonne écoute!
Bonjour! Aujourd'hui, les sex-maîtresses accueillent Julie, une amie et diplômée en sexologie. Julie, tu as été impliquée dans des organismes en lien avec la santé sexuelle des femmes et tu te joins à nous aujourd'hui en tant que sex-maîtresse honoraire pour jaser de l'interruption volontaire de grossesse ou IVG. Bienvenue à toi, Julie!
Merci de m'accueillir à votre podcast. Je suis vraiment excitée d'être là aujourd'hui puis de parler d'avortement, d'interruption de grossesse.
On va pouvoir vous en dire plus sur l'interruption de grossesse, dans le but d'ouvrir le sujet, de le normaliser, de peut-être dédramatiser.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à dire à ce sujet-là, surtout avec ce qui se passe là, présentement dans le monde.
Effectivement.
Pas trop loin de nous quand même.
Ouais. Les sex-maîtresses, toujours d'actualité.
Toujours d'actualité. Mais en même temps, le timing est excellent. Les canaux de communication sont ouverts, on en parle beaucoup. Je pense que c'est un excellent timing pour adresser ça.
OK. Moi, j'ai la définition de interruption volontaire de grossesse. C'est une interruption de grossesse provoquée au début de la grossesse pour des raisons non thérapeutiques. Donc, quand on dit non thérapeutique, j'imagine que c'est pour dire que c'est pas pour la vie de la personne. C'est pas nécessairement parce que la vie de la personne est en danger qu'on interrompt sa grossesse. C'est pour,
exact.
Ça peut être pour d'autres raisons.
En général, c'est des situations où est-ce que, physiologiquement parlant, la grossesse se passe bien. Il n'y a pas de raison médicale d'intervenir. Par exemple, comme une grossesse ectopique, où est-ce qu'on le sait là, qu'il n'y a aucune chance que le fœtus puisse se développer sainement. Donc, puis ça peut mettre la vie de la mère en danger. Donc, ça, on pourrait dire que c'est thérapeutique, puisqu'il y a une action pour protéger soit la mère ou une complication là, éventuelle.
Il y a deux méthodes d'interruption de grossesse.
Exact.
La première, c'est la méthode par médicament. Donc, ce qu'on va appeler une interruption de grossesse médicale.
OK.
C'est seulement associé à prendre une pilule, des médicaments pour interrompre sa grossesse. Puis ça, c'est jusqu'à 9 semaines de gestation.
Okay.
Donc, quand on parle d'interruption de grossesse médicale, c'est seulement parce qu'on prend des médicaments. Et ensuite, on va avoir l'interruption de grossesse par instrument. Donc, on va appeler l'interruption de grossesse chirurgicale. Au Québec, il n'y a pas de loi prévue pour la limite de temps pour avoir une interruption de grossesse chirurgicale où il y a vraiment une procédure chirurgicale. Donc, quand on parle d'interruption de grossesse, là, en ce moment, on a déjà dit interruption de grossesse, interruption volontaire de grossesse. Souvent aussi, on parle d'avortement. Les trois termes sont possibles. Dans le domaine de la recherche, de plus en plus, on utilise juste interruption de grossesse parce que c'est pas nécessairement volontaire. Comme tu as dit tantôt, admettons des grossesses ectopiques ou des trucs comme ça. Ben, si ça avait pas été d'une complication, peut-être que ces gens-là auraient voulu continuer la grossesse.
Exact.
C'est un terme plus neutre, là, interruption de grossesse, que les autres, dans le fond.
Exact.
Et donc, pour le reste de l'épisode, on va essayer le plus possible de dire IG ou interruption de grossesse.
Donc, ouais, c'est ça, j'ai quand même... C'est pas un fun fact, là. C'est plutôt une phrase qui m'a percutée, là, quand je l'ai lue. Par rapport à l'avortement dans le monde, bon, dans l'introduction, on abordait justement qu'est-ce qui se passe chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, par rapport à l'avortement et l'illégalité de l'avortement n'a pas d'impact sur le recours à l'avortement, mais a un impact majeur sur la santé des femmes, et je trouve ça extrêmement percutant. C'est ça le mot qui me vient, parce que je trouve que ça met vraiment en évidence le fait que c'est pas parce qu'on met des lois autour de l'avortement ou de l'accès à l'avortement que les femmes vont cesser d'y avoir recours.
Exact. Mais comme tu dis, ça a un impact sur leur santé parce que la façon dont elles vont y avoir recours, ça peut être plus sketch.
Ouais,
je sais pas comment dire ça.
C'est des contextes plus clandestins.
Clandestin.
Ils vont underground.
Fait que c'est caché, c'est fait par des gens qui sont pas formés pour ça ou qui prétendent l'être. Donc, tu sais, ce que je trouve là-dedans qui est dangereux, c'est le fait justement qu'on tienne pas compte de la sécurité puis d'assurer en fait la sécurité des femmes dans ce contexte-là, parce qu'elles vont y avoir recours de toute façon.
Ouais.
C'est ce que les études démontrent, c'est ce que l'histoire nous montre aussi.
Sans banaliser les avortements, tu sais, au Québec, en 2020, il y a eu 22 000 interruptions de grossesse.
Okay.
Au Canada, c'est 75 000 interruptions de grossesse.
Okay.
Ce qui est quand même beaucoup. Dans les stats, je l'ai trouvé importante parce que ça aussi, c'est un mythe qu'on entend souvent que d'interruptions de grossesse après 20 semaines, par exemple, ou tu sais, c'est même pas 1 %.
Okay, non, c'est bon. Ça, c'est, donc, c'est rare. Mais c'est rassurant aussi de savoir que c'est les méthodes pour les avortements et tout ça, c'est safe, c'est courant, les risques sont minimes.
Ouais. Puis aussi, j'ai entendu que le pourcentage de femmes qui regrettent avoir eu recours à une interruption de grossesse est vraiment faible, comme très très faible. Les gens regrettent pas, ils regrettent pas, c'est des choix qui ont été réfléchis, c'est pas des choix faciles, mais une fois que c'est fait, comme ils sont satisfaits de leur choix, là, pour ne pas dire... contente, là, tu sais.
Mais il y en a qui le font, hein, pour mais vrai, oui. Là, je veux dire, il y en a qui sont vraiment heureuses de... Juste le poids qui est libéré dans le fait de « OK, je le fais ».
Ouais.
Ou « je le fais pas », là, peu importe, mais...
Ouais, ouais, ouais.
Juste prendre une décision, là, c'est un poids énorme qu'on enlève. Oh. Puis je pense qu'il y a une grande partie de ça qu'on doit à la liberté de choix, à la liberté reproductive et la santé des femmes. On peut revivre d'autres expériences, donc c'est pas définitif. Tu vas sûrement nous en parler, Sarah, mais les avortements, les interruptions de grossesse, ça a toujours eu lieu dans notre histoire.
Ouais. J'adore l'histoire, puis j'adore... j'adore l'avortement, c'est comme ça, ça se dit pas vraiment.
Comme l'avortement dans une perspective historique.
Au niveau intellectuel, c'est très intéressant. Au niveau sexologique également. On se comprend.
Puis, j'avais envie de vous faire un petit cours d'histoire.
Oh, il l'a vite.
Puis, en fait, j'ai aucun crédit. J'ai pris les informations de la page Instagram qui s'appelle Ta Raison Québec. Pour
Oui, Ta Raison, c'est la bonne.
Oui, c'est ça.
Oui.
Donc, une page Instagram, puis il avait fait l'historique sur l'avortement au Canada. Mais je vous résume ce qui a été dit. Okay? Donc, on est en 1869.
Oh, OK.
Une loi criminalisant l'avortement est adoptée au Parlement canadien. Soit de procurer un avortement ou se faire avorter était un emprisonnement à vie.
Mon Dieu! Ça, c'est comme les États-Unis dans certains États actuellement. Là.
Actuellement.
On est comme en 1860.
On est retourné au 17e siècle.
Incroyable!
Tu te dis, mais c'est dans l'ancien temps. Ben non, vous voyez, on y retourne. En 1892, on est 23 ans plus tard.
OK.
J'ai fait le calcul de maths.
Bravo!
On criminalise l'annonce ou la vente de produits contraceptifs.
Mais là...
Ou de l'information sur l'avortement aussi. Oh, donc, on l'a criminalisé. Puis là, en plus, on criminalise juste le fait de l'annoncer ou de se tenter de vendre des produits.
Oui!
1892.
T'as pas le droit!
Probablement que c'est avec la religion qu'on interdit tout ce qui est contraception et avortement. Bon, ensuite, on s'en va dans les dates plus importantes. 1960, fait que 100 ans plus tard, presque. Bon. Le gouvernement fédéral autorise la première pilule contraceptive.
Right.
On est bien content. 1966, donc 6 ans plus tard après la première pilule contraceptive, des complications d'auto-avortement, donc du monde, comme tu parlais un peu, qui vont peut-être faire ça de façon clandestine, est la première cause d'hospitalisation des femmes canadiennes au pays.
C'est terrible.
Il y a comme plus de 45 000 admissions en 1966 pour des auto-avortements ou en tout cas des...
Donc, impossible.
C'est fou, là!
C'est fou! C'est la première cause... Répète ça! Première cause d'hospitalisation des femmes en 1966. La première raison, top raison pour laquelle les femmes vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont essayé de se faire avorter, puis... Ça a pas mal.
Mais c'est fou, le pensez-y, là. 1966?
T'as pas vraiment
l'option. J'avais aucune option.
Non.
Il y en a, là, des femmes à cette époque-là qui étaient peut-être, là, à bout, là, d'enfanter, là.
Oui, probablement.
Mais je veux dire, après 20 grossesses...
C'est pas facile sous le corps, là.
20 grossesses, là, chapeau à ces femmes qui sont passées au travers de ça. Mais c'est plutôt honteux, hein, dans notre histoire de savoir que ça s'est passé comme ça.
Quand même.
Est-ce que ça s'améliore, Sarah?
On continue dans le temps. Donc, 3 ans plus tard, en 1969, il va y avoir le projet de loi C-150 qui va être adopté à Ottawa, notre gouvernement fédéral.
Comme l'aimait appeler la loi Omnibus, c'est ça?
Exactement. Yes. Merci. Ça devient légal d'annoncer ou de vendre de la contraception. Et l'avortement est maintenant permis seulement si un comité composé de 3 médecins juge que la vie ou la santé de la femme est en danger.
OK, donc on va accepter là, qu'il y ait des avortements thérapeutiques, comme on a dit tout à l'heure.
Exactement. Entre très grandes guillemets, d'une bonne raison médicale pour...
Fait que t'es en train de me dire que, genre, juste si 3 dudes, sûrement blancs, sûrement middle-aged, s'assoient puis décident que c'est pas bon pour ma santé, seulement là, j'ai le droit d'avoir un avortement.
Ouais. Dans les cliniques où ils ont permis ça, tu sais, ils ont donné des permis à certaines places.
C'est pas n'importe où avec n'importe qui. C'est quand même très restrictif.
Honnêtement, si ça c'est pas la symbolique institutionnalisée du contrôle du corps des femmes, I don't know what is, genre.
On continue.
Oui.
Fait, un an plus tard, après ce projet de loi-là, en 1970, vous avez probablement déjà entendu son nom. On a le docteur Henry Morgan Tyler, qui ouvre une clinique d'avortement à Montréal, malgré le fait que cette pratique contrevienne aux dispositions là, du code criminel. Puis c'est ça, lui, sa clinique était pas permise. Puis pendant 6 ans, donc de 1970 à 1976, là, Dr. Morgan Thaleux, il se fait poursuivre par le Québec. Ben c'est ça, il y a plein de poursuites judiciaires contre sa clinique et les autres médecins qui pratiquent là, là pour faire des avortements. Bref, c'est seulement 6 ans plus tard que le Québec arrête de le poursuivre. Là. Fait que pendant 6 ans, il essaie, comme il va en prison, Bref, pas facile au Québec, hein, il y a de là de l'année.
Ben pas facile au Canada, j'ai envie de dire, parce que, en effet, là, Dr. Morgan Thaleux, il a même eu des poursuites là, ailleurs au Canada pour des pratiques, en Ontario, entre autres, là, parce qu'il y avait plusieurs cliniques, cet homme-là, quand même. Un allié solide pour les femmes dans les années 70-80, là. Mais c'est ça, c'est un coût très élevé pour être un allié.
Ça aussi.
Sa carrière, carrément.
Sa carrière a été basée là-dessus, là. Il est connu pour ça, il a encore sa clinique aujourd'hui à Montréal, qui roule fort, puis qui fait beaucoup de travail, de sensibilisation puis d'information. C'est majeur ce que cet homme-là a fait, mais il faut quand même se dire que c'était plutôt marginal là, dans les années 70. Ouais. Merci, Dr. Morgan
Merci. Taylor. Une pas pire bonne nouvelle, en 1988, la Cour suprême décriminalise l'avortement en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés de la personne.
Wow!
On peut applaudir!
Les femmes sont des êtres humains, qu'on a des droits, youpi!
Mais... on va leur donner des droits aussi à réfléchir puis à prendre des décisions pour leur propre corps, tu sais, je veux dire...
Ça commence. Moi, j'ai un gros mais. On rappelle que je viens de dire que la Cour suprême a décriminalisé l'avortement. Donc, c'est pas nulle part inscrit dans nos lois que l'avortement est un droit. Puis ça, c'est une leçon importante.
On t'apprend pas ses doigts si tu le fais.
Exact. Tu vas pas aller en prison à vie. Tu vas pas... C'est exactement. On va pas te punir pour avoir un avortement. Mais nulle part dans nos lois, c'est indiqué qu'on a le droit à l'avortement, ce qui fait en sorte que le droit à l'avortement, là, peut être retiré n'importe quand. Et c'est pourquoi, tu sais, je pense que les gens combattent encore ça, même au Canada, même quand on se fait dire, c'est moins pire au Canada. Ben, il y a des projets de loi qui passent à chaque année au Parlement canadien, qui essaient de donner le statut d'être humain à des fœtus. Bref, tu sais, il y a plein de façons pour essayer d'arriver à en retirer ce droit-là. C'est le fun, 1988, décriminalisation, mais attention, c'est pas dans nos lois comme étant un droit.
C'est un pas en avant, mais on n'est pas tout à fait là. On a du chemin à faire.
OK, j'ai presque fini.
La leçon d'histoire avec Sarah Bouchemin.
C'est en 1988, après tout ce que dit la Cour suprême, Santé Canada va décréter que l'avortement est une procédure médicale essentielle qui nécessite le financement des provinces, ben de nos systèmes de santé de chaque province. Ouais. C'est pourquoi que c'est en 2006 que ici l'interruption de grossesse chirurgicale a été gratuite, donc complètement payée par la RAMQ, là.
Ouais.
C'est choquant quand même à savoir ça. Hein?
2006.
Ça va donc avoir pris 18 ans pour avoir la gratuité complète de... pour
c'est
avoir
une génération complète.
C'est vrai, tu sais, je m'allais dire, si t'es enceinte en 1988 puis t'avais pas les moyens, ben ton enfant il a 18 ans quand c'est finalement...
fou quand on le voit comme ça. Fascinant.
Si
on en rit, là, parce que honnêtement, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, là. Je veux dire, on a fait beaucoup de chemin depuis, sauf que ça reste terrible.
Oui.
Une chance, c'est aujourd'hui qu'on est rendu où est-ce qu'on est, même si, bon, hein, il n'y a rien d'acquis dans la vie, puis on sait jamais qu'est-ce qui pourrait bien arriver, là. En ce moment, je trouve qu'on a un exemple très, très, très concret de ça. 18 ans.
J'ai une question. Est-ce que, inclus dans la RAMQ, c'est les avortements? Parce que tantôt, Sarah, tu nommais les avortements comme avec instruments, tu sais, que ça prend comme chirurgicaux. Puis les avortements médicaux, que c'est des médicaments. Est-ce que la RAMQ en 2006 couvre les deux procédures ou seulement ceux par instrument?
Il me semble que c'est seulement par instrument.
Pourquoi en fait, c'est que la pilule abortive, elle a été...
c'est ça. Ben là, en 2018.
C'est ça, c'est très
2018.
Récent. Parce que là, on fait peut-être un petit mélange entre le plan B puis la pilule abortive. Je sais pas si on en a discuté, mais le plan B, c'est juste au cas où.
Okay.
C'est quand t'as eu une relation sexuelle à risque, donc t'as eu un rapport sexuel, le condom est brisé, par exemple, le lendemain, t'as comme jusqu'à 5 jours qu'on peut aller chercher cette pilule-là en pharmacie, pas besoin de voir un médecin. C'est vraiment pour prévenir. Si jamais il y a eu un risque de grossesse, on vient comme éradiquer ça.
Fait que c'est pas comme une interruption de grossesse.
Exact, on le sait pas encore.
Ok, ok.
La personne peut ne pas être enceinte.
Mais quand même, les pilules abortives, là, qui, vu que t'es à moins de 9 semaines, tu vas faire une espèce de fausse couche.
Exact, provoquée par des médicaments. C'est exactement ça.
Ça, c'est couvert par la RAMQ seulement depuis 2018.
C'est légal au Canada depuis 2018.
God, ok.
Quand je faisais une recherche en Inde.
Ouais.
Il me parlait de la pilule abortive, puis j'étais comme, ah, le plan B, puis il était comme, non, 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 Pilule abortive. En Inde, aux États-Unis, ça existe depuis presque 20 ans.
OK.
Puis c'est ça, le Canada était hyper lent. Wow. On pourrait se poser bien des questions politiques, pourquoi ça a pris autant de temps.
Mais c'est que les médicaments passaient pas les tests.
Okay. Exact.
C'est ça qui a été long, Santé Canada. En même temps, bon, il y a des avantages et inconvénients au fait que ce soit très sévère comme évaluation, là, quand ils veulent mettre des nouvelles médications sur le marché. Sauf que 2018, là, c'est tort en titi.
Maintenant que la pilule abortive est légale au Québec, on revient en 1989. Donc ça, c'est un an après que la Cour suprême a décriminalisé l'avortement. Mm-hmm. Un an plus tard, on a Jean-Guy Tremblay, déjà par son nom, honnêtement.
Honestly.
Moi, je le juge déjà. Il tente, par la voie des tribunaux, d'interdire à son ex-conjointe, vous avez probablement déjà entendu son nom, Chantal Daigle, de se faire avorter. Donc, par les tribunaux, là, il essaie vraiment de dire que le fœtus lui appartient aussi. La Cour va donner raison à Chantal Daigle, car le fœtus n'est pas compris dans les termes être humain de la charte. Mais c'est une épopée vraiment intéressante et bref.
C'est une pionnière l'avancement des droits pour les femmes.
Ouais.
Vous avez fait un podcast là-dessus récemment. L'autonomie reproductive des femmes, c'est fort ce que cette femme-là a pu permettre comme évolution par rapport à ces aspects-là.
Ouais.
C'est comme le Roe versus Wade du Canada, du Québec.
Exact.
Ben, du Canada, parce que c'est la Cour suprême là,
c'est des Québécois, là. Quand même un matter de pays. Là.
Exact. Puis tu sais, à cause que c'est une cause urgente, c'est-à-dire que on n'a pas 2 ans, là, parce que d'habitude, te rendre en Cour suprême, c'est un très long processus. Mais là, ils ont réussi à... Ben, réussi. Tu sais, il a passé en appel, rendu en Cour suprême, mais elle était tellement rendue loin dans sa grossesse que pendant que le jugement se faisait à la Cour suprême du Canada, elle était aux États-Unis en train de se faire avorter. Comme elle a traversé la frontière, comme... c'est vraiment incroyable son histoire.
Elle
comme...
l'a fait.
Comme une chance que le jugement lui a donné raison, finalement.
Encore une fois, moi, je suis fascinée par les risques. On parlait de Dr. Morgan Taylor tantôt, mais cette femme-là a pris le risque de se faire emprisonner, là, puis d'être accusée de commettre un acte criminel par son choix. C'est tellement gros, c'est tellement lourd à porter sur une paire d'épaules, là, le combat d'une société au complet, c'est... Encore une fois, c'est percutant, tout ça.
Ça va être le mot, ça va être le mot de l'épisode.
Percutant, choquant.
Percutant.
Mais après tout ça est très théorique, puis ça nous donne une bonne base, justement, pour mieux comprendre aussi les vécus des personnes qui passent à travers le moment où il faut prendre une décision pour interrompre ou non sa grossesse. Puis c'est surtout une des raisons principales pour laquelle on a invité Julie aujourd'hui, pour parler plus concrètement, comme ça ressemble à quoi. On pense à Chantal Daigle qui a dû prendre cette décision-là. Elle a passé par tout un processus, mais aujourd'hui, il y a quand même en place au Québec des organismes qui permettent d'accompagner les personnes qui sont dans ce processus-là, puis de jaser avec eux, de peser les pour et les contre, de les accompagner dans le système médical et peut-être même judiciaire. Moi, j'aimerais ça entendre parler de ces personnes-là. Comment ça se passe, tu sais, comme ça ressemble à quoi, mettons, d'un matin, là, je me pose la question, je découvre que je suis enceinte, je veux mettre terme ou peut-être ou pas, je sais pas trop.
Faut le dire dès le départ, là, c'est pas un processus qui est simple pour personne. Mm. Qu'on soit certaine ou non de son choix, c'est pas un processus qui est simple. Tout d'abord, ce qui est important, ben, faut passer un test de grossesse.
OK, étape
1, il faut s'assurer qu'on est vraiment enceinte.
C'est niaiseux, mais c'est vrai, je veux dire, comme je suis allée lire les sites du gouvernement et tout, puis c'est comme ça sert à rien que t'appelles qui que ce soit si t'as pas encore fait un test de grossesse.
Puis pourtant, les premiers contacts là, avec les femmes qui sont dans ces situations-là, souvent, vont nous contacter bien avant là, qu'elles aient fait le test de grossesse. Là. Un retard de 2 jours, de 48 heures, peut amener une énorme anxiété chez plusieurs femmes. Ouais. Pas nécessairement parce que ces femmes-là savent qu'elles veulent pas poursuivre une grossesse si ça leur arrive ou peu importe. C'est seulement l'anxiété de devoir dealer avec une situation comme celle-là, quand c'est imprévu aussi.
Ouais.
C'est extrêmement compliqué, ce processus-là, pour plein de femmes. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça, la première étape, c'est, suis-je vraiment enceinte?
Bon.
On commence par là. Puis le premier choc, moi, que j'ai eu en étant vraiment beaucoup au contact de ces femmes-là, c'était qu'elles ne savaient pas comment savoir si elles avaient un retard significatif ou non. Elles ne savaient pas comment calculer le moment de l'ovulation. Elles ne savaient pas c'était quand la dernière date des menstruations. Elles n'étaient pas certaines si la relation était à risque ou protégée. Quand on se dirige vers un organisme communautaire qui soutient les femmes dans cette situation-là, la première chose, c'est de s'assurer que la personne est enceinte parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent aussi là, sur la santé sexuelle des femmes. Mm-hmm. Que ce soit par rapport à la fertilité, aux menstruations, ou à la santé sexuelle en général. Une fois qu'on a vraiment pu identifier que, oui, en effet, il y a un retard significatif, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher un test de grossesse. Hein. Puis ce qui est le fun avec plusieurs organismes, en tout cas, je vais parler de ceux que je connais qui sont plutôt situés à Montréal, mais c'est possible de se faire accompagner aussi, même dans ce processus-là, d'avoir une intervenante qui est là avec toi, qui passe le test avec toi, jase avec toi avant de, OK, si c'est positif, comment ça va filer? Si c'est négatif, comment ça va filer aussi,
tu sais? Ouais, ouais, ouais.
Mais voilà. Fait qu'il y a quand même déjà un accompagnement qui peut se faire avant même qu'on sache si on est enceinte ou pas.
Ah, c'est rassurant quand même de, ouais, de au moins savoir qu'il y a quelqu'un qui peut être là pour t'aider avec le calcul. Ce calcul-là, il est pas tout à fait acquis.
On apprend c'est quoi les menstruations quand on est au secondaire, mais on n'apprend pas vraiment à enregistrer notre cycle ou comprendre c'est quoi vraiment la journée 1 du cycle, tu sais. Pendant longtemps, moi, je pensais que c'était la première journée que je termine mes règles, tu sais, qui est vraiment comme jour 1 dans ma tête, là.
OK.
Mais on s'entend que la première journée, c'est la première journée des menstruations, ce qui est beaucoup plus simple comme calcul. Oui.
Mais tu sais, il faut quand même se remettre dans le contexte où est-ce que, en tout cas, je vais parler pour notre génération, tu sais, on a tout autour de 30 ans, puis nous, l'éducation à la sexualité qu'on a reçue, c'était pas en lien avec la santé sexuelle, c'était en lien avec la prévention des ITSS.
Ouais. Exact.
Donc, je veux dire, c'est pas du tout le même angle là, qu'on aborde ici. Ouais. Là, on dit, fais attention à ne pas faire ça pour pas être malade.
Ouais.
En tout cas, pour moi, là, on a démonisé un petit peu beaucoup là,
ben
les ITSS, même juste la sexualité en tant que telle. Là. Fait que dans des organismes communautaires qui viennent en aide aux femmes qui ont des craintes par rapport à une possible grossesse, c'est souvent ça qu'on doit commencer par rattraper.
Okay.
Toutes les espèces de mythes autour de la grossesse, de l'interruption de grossesse aussi. Puis finalement, quand la femme est certaine qu'elle est enceinte, le test de grossesse est positif, on en a fait plusieurs, on est sûr. La femme qui se questionne. Donc, je vais parler d'ambivalence ici parce que ben, c'est des rencontres d'ambivalence. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est des rencontres où est-ce que...
C'est bon. C'est nommé dès le départ.
Oui, oui. Parce qu'on admet puis on valide le fait que c'est pas parce que tu voulais ou ne voulais pas être enceinte que ta réaction, si elle est contraire là, à ton souhait de départ, elle est pas valide. Au contraire, là.
Okay.
Tout est valide là-dedans. C'est tellement multifactoriel de vivre une expérience comme celle-là. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on propose à cette femme-là, qu'on se rencontre pendant un petit heure dans un petit bureau cosy où est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps de jaser tout ça. On s'assoit, on fait connaissance, on regarde ensemble c'est quoi les points les plus importants pour elle. Peut-être aussi pour son couple, on va aussi considérer ça là, dans l'équation. Malgré qu'il y ait beaucoup de femmes là, qui puissent vivre ce processus-là seule, parce qu'il y a plein de situations là, qui peuvent amener une femme qui n'est pas dans un companionship de devoir dealer avec cette décision-là seule, mais il y a quand même des fois le partenaire, même des fois il y a la famille. Ça, j'ai vraiment aimé ça. À certaines rencontres, il y avait le parent, l'ami, le conjoint de la femme qui venait pour sa rencontre, qui l'accompagnait. Fait que on sentait vraiment qu'il y avait du support là, de leur entourage. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes les femmes.
Ouais.
Mais voilà, donc quand on parle d'ambivalence, c'est sûr qu'il faut se dire que c'est souvent quand on est dans une situation où il y a deux contraires qui s'opposent. On est vraiment tiraillé d'un côté et de l'autre. Puis une des choses qui était vraiment importante pour moi de faire, c'était de nommer les inconvénients, l'interruption de grossesse, et les avantages. Ce qu'on ne nomme pas souvent, je trouve. On démonise beaucoup l'action de faire une interruption de grossesse, que ça a des répercussions graves là, sur le fœtus en développement, parce que ici on va parler de fœtus, on parlera pas d'enfant à naître, on ne parlera pas de bébé ni de rien de ça. Tu l'as dit tantôt, Sarah, au niveau des droits, un humain, c'est une personne qui est autonome et qui est capable de vivre de manière autonome. Et un fœtus, ça peut pas faire ça.
Non, hein,
ça peut vraiment pas.
Fait que t'es en train de nous dire aussi que les organismes dont tu parles sont pro-choix.
Exactement.
OK, parfait.
Exactement.
Parce qu'il y en a des organismes qui sont...
Pro-vie.
Ouais, ou anti-choix.
Ou anti-choix, en effet.
Il faut faire attention quand on regarde, mettons, si on a besoin de ces ressources-là.
Oui, puis je veux faire un petit bémol par rapport à ça, là, sachez-le. Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, ça a des répercussions, évidemment, sur le Canada, sur nous. Et il y a eu un boom depuis les dernières lois qui sont passées aux États-Unis d'organismes qui se présentent comme étant pro-choix.
OK.
Mais qui, en arrière, les valeurs qui sous-tendent ces organisations, là, c'est plutôt pro-vie, sans dire nécessairement anti-choix, là, plutôt pro-vie, puis on l'a nommé tout à l'heure, là, ça a beaucoup un lien avec les organismes qui sont très proches d'une religion quelconque. Souvent, c'est en lien avec ça, mais donc voilà, fait qu'une rencontre d'ambivalence, comment ça se passe, on se rencontre, on prend le temps de faire connaissance, on prend le temps aussi de regarder c'est quoi les besoins de la personne.
OK.
C'est quoi ses valeurs? C'est quoi elle qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense, elle, vraiment de l'avortement, de l'interruption de grossesse? Parce qu'elle a le droit d'avoir une opinion différente de l'interruption de grossesse et faire un choix qui n'est pas cohérent avec sa valeur. Ça arrive.
Ouais, parce
que c'est des choix tellement... Ouais. Comme j'ai dit tantôt, c'est multifactoriel. Puis il ne faut pas négliger ça.
Ouais.
Fait qu'on prend une petite heure ensemble pour jaser de ses besoins. Voir, elle, qu'est-ce qui la préoccupe? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il arrive? C'est quoi son scénario idéal? Ouais. Puis moi, je suis vraiment là pour l'écouter, l'accueillir dans ce qu'elle vit, lui offrir de l'information aussi. Parce que j'entends toutes sortes de choses dans un contexte comme celui-là. Puis c'est pas nécessairement de la faute de la personne, là. Il y a tellement de mésinformations, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a tellement de mythes aussi associés à ça. Une des premières choses que je démystifie très, très, très souvent avec ces femmes-là, c'est la question de la fertilité.
OK.
Ouais.
Beaucoup de femmes ont la crainte que l'interruption de grossesse, qu'elle soit chirurgicale ou médicale, affecte leur capacité à pouvoir avoir des enfants dans le futur. C'est un gros mythe qui, je sais pas d'où ça vient, là. C'est probablement des idées qui étaient grosses propagandes, là, qui visaient à décourager, en fait, les femmes d'aller vers cette solution-là. Mm. Ils ont déjà dit que l'avortement, ça provoquait, genre, des cancers féminins. Ça
Wow!
Mettons, je me fais opérer au foie, puis on doit me le retirer, mais ça va me donner le cancer de quelque chose.
Oui, mais c'est ça.
OK.
Mais là, on parle même pas d'un organe qui existe, là. On parle d'un... C'est pas un organe vital, là.
C'est un fœtus, on peut considérer ça, là, comme un cancer.
Ben oui, c'est une masse.
C'est une masse qui se colle au corps et qu'on veut simplement enlever parce que si elle se développe, ben elle devient quelque chose d'autre.
C'est ça.
Mais c'est un amas de cellules qu'on vient enlever.
Ben oui, c'est ça. Pour revenir à ce que tu disais, tu sais, je pense que c'est vraiment de croire que celles et ceux qui passent à travers le processus d'interruption de grossesse, c'est simple, c'est facile, c'est vraiment un mythe, ça aussi. Tu sais, j'ai l'impression que les gens se questionnent, puis ils vivent pas nécessairement facilement, là. Arrêtons de croire aussi le mythe que les gens utilisent ça comme moyen de contraception, puis que c'est facile, puis tout. Puis j'ai trouvé une citation de Simone Veil, une ardente féministe française, qui disait « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. » Puis je pense que peu importe la façon que tu vois ton interruption de grossesse, même si pour toi c'est évident que c'est ça le choix, tu sais que pour toi c'est plus simple, peut-être moins d'ambivalence, c'est quand même difficile à la fin de la journée d'avoir vécu ça dans ta vie. Ça me fait penser à tes rencontres d'ambivalence. Je savais pas qu'on pouvait faire ça en personne, là, tu sais, ou vraiment aller au centre pis tout. Parce qu'en ligne, j'avais trouvé des questionnaires. Si t'es en ambivalence, tu peux télécharger 2-3 versions pis ça te pose des questions. Là, c'est sûr que t'es pas accompagné, donc tout ce qui est abolir les mythes, c'est moins là. Mais j'avais vu ça en ligne, pis j'étais comme, waouh, mais quel bel outil d'avoir des questions déjà posées, tu sais, toi, comment tu te verrais si t'étais parent? C'est des genres de questions que probablement que vous posiez, là, dans ces rencontres-là, pis...
Absolument.
Donc, voilà, il y a des ressources en ligne aussi.
Oui, pis tu sais, au Canada, j'ose dire, il y a SOS Grossesse aussi, là, qui est pan-canadien, qui a des informations vraiment pertinentes sur leur site internet, des services d'écoute aussi, là, tout comme Grossesse Secours. C'est ça, les deux, il y a des services similaires de l'accompagnement aux femmes qui sont en questionnement par rapport à une grossesse, tout simplement. Donc c'est ça, tu sais, puis ce que j'ai trouvé le plus surprenant dans mes rencontres d'ambivalence avec plusieurs femmes, c'était le nombre de distorsions cognitives qui pouvaient être présentes lors de mes rencontres.
La distorsion cognitive, c'est un concept en psychologie, mais c'est pour décrire les façons de traiter l'information qui résulte en erreurs de pensée prévisibles et qui ont souvent pour conséquence d'entretenir des pensées et des émotions négatives.
C'est vraiment de percevoir la réalité d'une manière inexacte.
C'est ça. Puis souvent, ça va tendre vers le négatif. Hein. C'est rare qu'on va avoir une distorsion cognitive puis que ça va nous amener à vivre quelque chose de bien, bien, bien positif, mettons.
Oui, non, c'est ça. Mais c'est comme un mécanisme de défense. Oui. C'est dans ce sens-là que c'est une façon de traiter l'information. Mm-hmm. Fait que, par exemple, une pensée noir ou blanc, tout ou rien. C'est comme, tu y vois plus clair.
C'est exactement ça.
Ou un autre exemple, ça peut être surgénéralisation. Fait que penser qu'une conclusion négative va arriver constamment. Fait que c'est comme à cause que je me fais avorter aujourd'hui, ben là, toutes mes autres grossesses vont mal se passer ou toutes mes autres grossesses comme je pourrais plus jamais, par exemple.
Un des mythes qui est très tenace, là, c'est le fait que toutes les femmes vont utiliser l'interruption de grossesse comme moyen contraceptif.
Ah ouais.
Puis ça, on va appeler ça, en fait, c'est une distorsion cognitive qui est une surgénéralisation.
Oui.
Donc, on va mettre toutes les femmes qui vivent un IG dans le même panier. Puis, on va pas considérer le fait que certaines femmes qui subissent un IG, mais c'est parce qu'ils ont une grossesse ectopique, puis ils ont pas le choix.
C'est ça.
D'autres femmes pour qui c'était pas supposé être une option, la grossesse.
Ouais.
Hein, des femmes qui se sont faites diagnostiquer médicalement infertiles ou leur partenaire, ouais. Et finalement, il y a une grossesse, il y a un accident qui arrive. Ces femmes-là aussi, il faut penser à elles, parce que souvent, pour ces femmes-là, on leur dit qu'elles sont infertiles. Pourquoi aller vers des moyens de contraception si elles ont un partenaire régulier et de long terme et tout ça? Donc, c'est une des généralisations excessives que j'ai entendues le plus.
Le plus souvent.
Wow. Puis, ouais. On s'entend que les vraies méthodes de contraception sont pas efficaces à 100%.
Ben non, il y en a pas, parce que c'est rond. On peut-tu le dire que des accidents arrivent?
Oui, c'est ça.
Je veux dire, je peux prendre ma pilule de la meilleure manière possible, comme c'est prescrit, puis avoir un accident quand même. Oui. Est-ce que vous en connaissez des femmes qui sont tombées enceintes sur la pilule?
Plein.
Ben oui.
Tout plein, là.
Oui. Cool. Ouais. Condom brisé. Condom brisé. Condom dépercé. Condom était mal mis. Condom, tu sais.
Le stérilet aussi.
Stérilet.
Là.
Stérilet. Ouais.
Combien d'histoires j'ai reçues dans mon bureau de femmes? Je suis tombée enceinte quand même, puis c'était pas supposé. Puis il y a un peu de ça aussi, tu sais, où il y en a une que je trouve difficile à avaler quand je suis confrontée à celle-là. Je vais vous parler de la distorsion cognitive qui s'appelle la personnalisation. Ça, dans le fond, c'est quand on porte le blâme entièrement sur soi, alors que ça manque de nuances. Donc, une des choses que j'ai le plus entendues dans mon bureau, c'était que c'était la faute uniquement de la femme si elle était tombée enceinte. C'était sa faute si elle s'était pas protégée comme faut. C'était sa faute si elle avait pas pris sa pilule comme faut. C'était sa faute si l'accident était arrivé. Quelqu'un qui me dit « je suis tombée enceinte et c'est uniquement de ma faute », ça me fait enrager de voir que cette personne-là prend entièrement le blâme, alors que, ouais, mais s'il n'y avait pas un petit spermatozoïde là, qui s'était pas venu s'insérer ici, là, ça serait jamais arrivé. Exact. Ça se fait à deux, ces affaires-là. Puis, je trouve ça vraiment dommage de voir les femmes prendre l'entière responsabilité de ces situations-là, parce qu'on s'entend. Il y a des situations dans lesquelles les femmes, ils vont encore plus se culpabiliser quand elles ont fait des choix dans leur contraception ou dans l'absence de la contraception. Puis ça, c'est des... Je trouve ça encore pire chez ces femmes. Elles se blâment davantage. Il y a comme un aspect de honte, de culpabilité qui rentre là-dedans. Ah, oh, j'aurais donc dû. Tu sais, là, le « ah, oh, j'aurais donc dû », là.
Parce que le partenaire, lui, était incapable d'acheter de la contraception ou d'utiliser la contraception.
Ou refusait.
Oui, exact. On
en avait parlé, là, on parle d'autonomie. Je trouve que c'est tellement lié, ces deux sujets-là, mais vous l'avez super bien expliqué, je trouve, dans l'épisode sur l'autonomie reproductive, tu sais, que la contraception, là, ça se négocie, puis c'est tout un travail que la femme doit faire là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous chez les hommes à prendre la responsabilité de la contraception. Puis plus qu'on va en parler, comme on fait aujourd'hui ensemble, plus qu'on va sensibiliser toute la population.
Oui, parce que l'autonomie reproductive, oui, c'est important comme concept pour que les femmes s'autonomisent, mettons, mais c'est aussi important pour les gars. La pensée magique, qui est sûrement une distorsion cognitive, de croire que toi, tu vas pouvoir te retirer à temps quand on le sait très bien. Genre,
c'est ça.
You will not make it.
Je comme veux dire, ton bonne chance de trouver un réflexe. Bonne chance.
Premièrement. Puis le petit spermatozoïde, sa seule job dans la vie, c'est de trouver l'ovule, puis tu peux te garantir qu'avec les rencontres que tu peux témoigner,
il trouve.
Il se rend.
Oh, il se rend. Oh, oui.
Mais moi, ça me fascine. En tout cas, clairement, j'ai pas de pénis, puis ça paraît probablement, mais tu rentres dans quelqu'un. Tu te dis pas, hey, imagine que je viens pis qu'elle tombe enceinte pis j'ai aucun pouvoir, aucun contrôle sur ce qu'elle va faire.
Ouais.
Moi, j'aurais la chienne!
Ouais, c'est ça, je serais le premier avec mes condoms pis c'est comme...
Pis je pense que c'est ça, c'est que le discours, il encourage pas à ce que les personnes qui disposent d'un pénis se posent ces questions-là, se responsabilisent par rapport à ça, parce que encore aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est le problème de la fille si elle tombe enceinte.
Ouais,
c'est qui est pogné avec le bébé si monsieur ça y tente pas finalement? Mais c'est madame.
Ouais.
C'est elle qu'on va pointer du doigt là, si elle, elle s'en va, hein. Ah,
La pression de la maternité, là, dans tout ce qu'on dit en ce moment, c'est assez intense. Tu sais, tantôt, tu nommais que ces femmes-là, elles peuvent ressentir beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Oui. C'est sûr que c'est en lien avec tout ça. Le discours qu'on met sur la bonté de la maternité, puis à quel point, aussitôt que t'as une vulve puis un vagin, t'es donc scripté pour être mère. Tu sais, si on flip de script, genre, les gars, sont-tu scriptés pour être père? Puis si la réponse est non, ben responsabilisez-vous pour pas que ça arrive quand c'est pas planifié, quand vous voulez pas, tu sais. Aidez-nous donc!
Tu sais, c'est ça, ça se fait à deux. Puis une autre distorsion cognitive qui m'a vraiment frappée, c'était la crainte de choisir l'interruption de grossesse ça allait affecter leur féminité,
okay.
leur valeur en tant que femme oh. et leur droit d'être une future mère.
Oh.
C'est gros, là.
Wow.
Pensez-y, là. Une petite cocotte de 16 ans qui a eu un premier rapport sexuel, elle ne savait pas.
Ouais.
Tant que ça, là, qu'elle avait accès à de la contraception, à la maison, on n'en parle pas, à l'école, il n'y a peut-être pas eu de cours d'éducation à la sexualité dans son programme à elle. Première relation sexuelle avec son petit chum, puis elle tombe enceinte. Puis là, elle arrive dans mon bureau. Puis elle me dit « Ouais, mais là, je suis une vraie femme si je refuse cet enfant-là? » Pensez-y, une enfant me parle comme ça, là. J'ai le cœur qui pleure quand je pense à des situations comme ça, parce que ce que je me dis, c'est que cette jeune femme-là, elle a aucune idée de c'est quoi sa valeur, puis sur quoi se baser pour se donner une valeur, puis...
C'était sa maternité, sa, ouais. sa valeur.
C'est
sa fécondité.
Sa fécondité.
Ouais, merci Sarah. Même pas maternité, juste non. fécondité.
T'es-tu capable ou t'es pas capable?
Je veux dire...
C'est fou.
Ça, là. Ça veut dire que ça fait bien longtemps qu'on lui a inculqué ça, là. C'est... Puis quand je dis « on », je veux dire les films Disney, les parents, l'école, la socialisation, tout, la culture. La matante qui lui demande « oh, c'est ta petite poupée, t'es une bonne maman » quand elle a genre 5 ans. Tu sais, comme c'est inculqué ouais, depuis ça. Longtemps, puis tout ça découle que finalement, elle arrive dans ton bureau, puis là, c'est genre...
J'ai plus de valeur,
c'est
là.
C'est ça, j'ai plus de valeur en tant
que humaine. Je peux pas faire ce choix-là.
C'est fou.
Je peux plus... J'ai plus le droit d'exister si je fais ce choix.
Ça, c'est dans le présent, puis aussi, ça impacte dans le futur, genre.
Ouais. Dans mon bureau, mon expérience est beaucoup en lien avec des jeunes femmes. Puis les jeunes femmes cis. J'ai pas eu des expériences très variées par rapport à un grand écart d'âge ou de diversité sexuelle, fait que je tenais à le mentionner. Fait que c'est sûr que l'input que j'ai à apporter, c'est surtout par rapport aux jeunes femmes, puis ce qui concerne, puis ce qui préoccupe les jeunes femmes. Tantôt, je parlais là, que je trouvais ça vraiment important d'amener les avantages et inconvénients de ce genre de situation-là. Puis beaucoup de femmes m'ont dit que quand elles ont vu le test de grossesse positif, il y a eu deux réactions en deux temps.
Okay. Une
première réaction de choc, parce ouais. que souvent, c'est pas prévu. Ou même quand ça allait, ça peut être surprenant quand même.
Mm-hmm.
Mais en deuxième temps, il y avait un gros sentiment de culpabilité qui venait avec cet aveu-là, mais qu'elles se sentaient soulagées de savoir qu'elles étaient fertiles, puis que leur appareil reproducteur est comme une confirmation que ça marche. La machine marche. Puis si vous saviez le nombre de fois que les femmes se sont retenues là, jusqu'aux larmes là, de me dire ça, quand moi, finalement, je leur dis « Ben non, la majorité des femmes que je vois, c'est ce qu'elles me disent aussi. » Enfin, moi, c'est quelque chose que je me questionne. Moi, j'ai jamais eu la crainte d'être enceinte. Ça m'est jamais arrivé.
Ouais.
Puis moi, quand que j'ai rencontré ces femmes-là, ça a fait naître ce questionnement-là.
Ben ouais.
Comme, hey, dans le fond, c'est vrai, ça. Je sais pas si j'ai des problèmes de fertilité, là. Puis c'est comme une espèce de soulagement, juste de, on le sait maintenant. C'est plus un mystère. La machine, elle marche. Puis peu importe si on voudrait qu'elle marche ou qu'elle marche pas. C'est pas ça l'important.
Non.
C'est juste de savoir que c'est une option, puis elle est là, puis elle nous est accessible. Puis il y a comme des soucis qui se sont évaporés pour certaines femmes de se rendre compte de ça. Fait que je trouve qu'une des choses qui est vraiment positive de ça, c'est l'espèce de confiance en son corps que si jamais je veux que la machine elle marche, tout est là pour ça.
Ouais. C'est intéressant. Ouais. J'avais jamais pensé à ça.
Mais on dirait que je me suis déjà questionnée sur ça, tu sais, parce que moi, je suis sur la pilule contraceptive. Je me suis souvent posé la question, ben peut-être que j'aurais même pas besoin, peut-être que je suis même pas fertile.
Ouais, en effet, oui, c'est ça. Moi aussi, c'est comme ça que je l'ai réfléchi. Donc, c'est ça, tu sais. Un des aspects vraiment positifs de ces rencontres-là, du moins, c'était d'offrir à ces femmes-là un espace où est-ce qu'il y avait pas de honte ou de rien, pas de culpabilité à nommer ces choses-là, même si elles arrivaient avec un sentiment de grande culpabilité. Je pense que le gros travail que moi j'ai dû faire avec ces femmes-là, ou la majorité d'entre elles, c'était de défaire les mines, c'était de normaliser, c'était de leur dire que c'était valide, que même si elles voulaient tomber enceinte, puis que finalement elles regardent le test de grossesse, puis sont pas contentes finalement, ils ont pas la réaction qu'elles espéraient, ça reste valide quand même. Puis on oublie de dire à quel point ça peut être un soulagement pour beaucoup, beaucoup de femmes qui vont vers cette décision-là. Il y a tellement d'enjeux importants puis divers à poursuivre une grossesse, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Les aspects sociaux, économiques, relationnels, émotionnels, physiologiques aussi, là, je veux dire.
Peu importe votre raison, vous avez le droit.
Exact. Puis une des affaires aussi que les femmes ont beaucoup demandé, ça fait-tu mal?
C'est-tu
douloureux à vivre ça? Puis on n'en parle pas beaucoup, là, mais tout dépendamment, bien sûr, là, de le choix qu'on fait, vers quelle méthode on va, donc un avortement qui est médical ou chirurgical. On l'a dit tantôt, le médical, c'est limité, hein, c'est pour les débuts de grossesse, c'est avant 9 semaines. ça laisse pas beaucoup de temps pour penser à tout ça là, quand t'es dans l'ambivalence, puis quand t'as comme des choses à mettre en ordre là, dans ta tête, dans tes émotions, avec ton partenaire potentiellement aussi. Là. Fait qu'il faut savoir que subir un IG médical, la grande différence avec un chirurgical, bien, c'est que ça se passe à la maison. On voit notre médecin, il nous donne deux pilules. La première, ça interrompt en fait le développement de la grossesse. Fait que ça fait juste un stop. On arrête de se développer, là, plus besoin de mettre l'énergie là-dessus de le corps. On arrête. Puis une ou deux journées plus tard, on va prendre un autre médicament qui, lui, va imiter, en fait, des symptômes là, prémenstruels ou menstruels. Donc, des crampes, des saignements. Puis c'est ça qui va permettre simplement de faire évacuer le contenu de l'utérus. Mais tout ça se passe à la maison. Fait que ça, je trouvais important de le mentionner parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas que ça se passe tout seul à la maison. Le niveau de douleur, bien sûr, là, c'est très subjectif. Hein. D'une femme à l'autre, on réagit tout différemment à ça. Mais en général, ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble à des crampes menstruelles un peu intenses. Pour le médicament.
Ça peut aussi être sur quand même une longue période. C'est pas un 48 heures de règle, c'est fini. Ça peut être jusqu'à des mois, tu sais, que t'as encore des segments pas rapport ou des méga crampes. C'est ça, c'est pas banal.
C'est pas banal. C'est ça, exactement là, mon point. C'est pas parce que je prends deux petites pilules là, que c'est fini puis c'est beau, là, puis je continue ma vie. Non. Il y a un processus qui vient avec ça. Je trouve ça important de leur dire parce que ça frappe beaucoup l'imaginaire, là, mais tu vas assister au déchargement, si je peux dire du contenu de ton utérus. Hein, nous, les femmes qui sommes habituées d'avoir des menstruations, on n'est pas bien impressionnées là, par un petit caillot de sang là, qui se présente. Là, hein? Sauf que sachez qu'à 9 semaines, ça reste quand même que c'est un bon caillot de sang, ça peut être impressionnant, ça peut être choquant aussi de voir ça. Là. Il y a des femmes qui vont aller vers l'IG chirurgical pour ces raisons-là. N'ont pas envie de devoir dealer avec la vue de ce que le corps peut éjecter là, quand on va vers le médical.
Mais dans le médical, ce que j'avais entendu, c'était moins intrusif.
Exact.
C'est-à-dire, où, tu le vis chez toi, tu sais, pour des gens pour qui, justement, l'interruption de grossesse, c'était correct pour les autres, mais pas pour eux, par exemple. Mais là, finalement, ils décident de passer à l'acte, ben, c'est comme moins intrusif de leur corps. C'est comme si c'était plus une fausse couche provoquée. Il y avait comme ce côté-là de l'interruption de grossesse par médicament que c'était comme...
Mais oui, tu fais bien de le nommer parce que... Il y a des avantages pour certaines femmes à aller vers ça. Puis, au niveau plus chirurgical, ben c'est une intervention de 15-20 minutes, là. On reste quand même là, dans la clinique, là, ou à l'hôpital, tout dépendamment de notre choix, parce qu'il y a plein d'endroits où est-ce qu'on peut subir une IG. Mais c'est à peu près une heure et demie que ça dure. Mais l'intervention en tant que telle, là, où est-ce que le médecin va dilater, va aspirer le contenu de l'utérus et faire un curetage, juste pour s'assurer qu'il ne reste pas de cellules qui puisse se développer dans l'utérus. Fait que c'est sûr que c'est pas le même genre de préparation, c'est pas le même genre d'implication, de durée, tout ça. Ça reste qu'il y a quand même une convalescence là, qui est proposée là, d'au moins une journée, puis d'y aller vraiment en fonction de qu'est-ce que nous, on se sent prête à faire ou pas. Sachez-le, il y a des femmes qui vont prendre plusieurs semaines de congé pour se permettre de vivre ça. D'autres qui se sentent prêtes le lendemain à reprendre leurs activités, puis c'est vraiment correct aussi. Ça dépend vraiment comment on réagit émotionnellement, physiquement,
à ce qu'on vient de vivre. Quelle sorte d'anesthésie qui se passe pour les trucs plus chirurgicaux?
C'est local. Donc, il y a quand même là, des médicaments qui peuvent être donnés intraveineuses, là, entre autres des...
antidouleurs.
Des antidouleurs, exactement. Puis une anesthésie locale. C'est dans l'avortement chirurgical, il n'y a pas là, de scalpel, il n'y a pas de suture, il n'y a rien de ça. Je tenais à le mentionner parce que ça fait aussi partie des mythes que je dois souvent défaire. Il n'y a pas d'histoire de scalpel. Ça ressemble vraiment à un processus d'accouchement, en fait. On va dilater le col pour permettre à ce que les instruments nécessaires pour aller vider le contenu de l'utérus puisse rentrer. Il peut y avoir des médicaments qui vont être donnés là, pour provoquer la dilatation là, du col de l'utérus, mais il n'y a pas d'affaire là, de coupure, il n'y a pas d'incision, il n'y a rien de ça. Ce qui va provoquer des saignements les jours suivants, une IG, peu importe la méthode qu'on choisit, c'est vraiment parce que le contenu de notre utérus doit se vider.
Ben oui.
Le même processus que nos menstruations, notre endomètre va se désintégrer et être expulsé. Donc voilà, fait que oui, il peut y avoir de la douleur, de l'inconfort, oui, il peut y avoir plusieurs journées de convalescence pour certaines femmes, pour d'autres non. Mais c'est un processus qui est plutôt, j'ai envie de dire qu'il est rapide quand même au niveau chirurgical. Peut y arriver qu'on ait besoin d'un deuxième rendez-vous, que ce soit pour le médicament ou le chirurgical. Ça va arriver là, des fois qu'il reste des morceaux, on n'a pas tout nettoyé au complet. Mais avec une échographie, ça se règle assez rapidement, puis on peut s'assurer en fait que l'interruption de grossesse a bien réussi peu de temps après.
Y a-t-il un moment maximal où on peut avoir recours à l'avortement au Québec puis au Canada?
Au niveau de la la loi, il n'y a rien qui interdit de faire une interruption de grossesse, n'importe quand.
OK.
Sauf que, j'ai parlé pour le Québec, là, les ressources qui existent présentement, c'est en bas de 23 semaines que l'interruption de grossesse chirurgicale est accessible pas mal partout. Okay. Au-delà de 23 semaines, là, ça devient un brin plus complexe. Il faut contacter le Centre de planification des naissances du Québec, puis voir avec eux c'est quoi les options qui nous sont proposées. Fait que c'est une des choses que j'aime beaucoup dire aux femmes, qu'ils n'ont pas à se presser pour prendre leur décision. Ouais. Même si, pour beaucoup de femmes, plus on attend, plus c'est difficile, parce que, bon, on est beaucoup au courant. Hein? Plus qu'on avance, plus que le fœtus grossit. Pour certaines femmes, ce qui est choquant aussi, c'est de savoir qu'ils ressemblent de plus en plus à quelque chose de vivant et d'humain.
Ouais.
Mais des avortements à 23, 24, 25, 26 semaines, ça se fait. Okay. Avant, il fallait se rendre aux États-Unis pour avoir accès à des services comme ça, mais au Canada, à cette heure, c'est accessible. On doit juste contacter le Centre de planification des naissances pour y avoir accès.
Good to know. Ouais. Bon. Puis, mettons, tu as dit tantôt que souvent, les personnes qui veulent discuter de leur interruption de grossesse ou de leurs options sont accompagnées. C'est sûr que tu as des exemples de moments, des beaux moments.
Il y en a des belles histoires. Il y en a des moments qui sont un bel exemple. Un exemple qui m'a vraiment touchée, c'est une jeune femme de 18 ans qui s'est présentée avec sa mère au rendez-vous. La jeune femme n'avait pas avisé là, que sa mère viendrait avec elle, mais c'était pas prévu là, qu'elle vienne avec nous dans la rencontre. Elle était vraiment là pour l'accompagner au rendez-vous, être là quand elle allait sortir, lui offrir un accompagnement aussi parce que là, la maman était soucieuse là, que sa fille, si jamais elle était bien émotive ou chamboulée par notre rencontre, mais qu'elle allait pas conduire, qu'elle allait pas se mettre en danger sur la route et tout ça. Bref, maman très, très bienveillante et très sécurisante. Ben, la jeune femme, elle rentre dans mon bureau, on prend l'heure au complet ensemble, elle m'explique ce qui est important pour elle en ce moment, puis vers quoi elle a envie d'aller, mais pas certaine. Puis une des choses que j'ai faites avec elle, c'était surtout de normaliser le fait qu'elle a pas besoin de se presser. Elle avait l'impression là que fallait vite là se dépêcher à prendre cette décision là. Fait que j'ai quand même pris le temps là de l'informer sur le fait que ben non là jusqu'à 23 semaines c'est assez accessible. Donc on jase de tout ça. Mademoiselle quitte mon bureau encore mélangée. Il y a comme plein de choses qu'on a adressées qui vont nécessiter une réflexion de son côté. Évidemment, comme c'est très souvent le cas là. Hein. Généralement, ça prend un certain temps juste pour comme absorber tout ce qui a été discuté dans cette rencontre là. Et à mon agréable surprise, en sortant du bureau, bon, la jeune femme me prend un petit 5 minutes avant la salle de bain et j'entends du coin de l'oreille la maman qui jase avec les intervenantes de la ressource sur OK, là, c'est quoi les affaires qu'il faut pas que je dise à ma fille? Comment moi je peux faire pour l'aider dans ce moment-là? C'est quoi moi mon rôle là-dedans? Est-ce que vous me proposez de parler de telle chose? Fait que là, finalement, on voit bien là, que maman, elle est ultra supportante. Elle est là à 1000%. Elle veut respecter le choix de sa fille. Elle veut éviter de faire des faux pas puis la mettre dans une situation qui pourrait être inconfortable ou douloureuse émotionnellement, là. Fait que je trouvais que c'était tellement un exemple inspirant d'une présence, d'un soutien. Je veux dire, c'est tellement accessible, là, offrir ce soutien-là aux gens qu'on aime. Elle est juste venue avec elle au rendez-vous. Elle a posé des questions pour mieux s'informer de la situation de sa fille, pour mieux comprendre sa réalité. Elle demandait des ressources, elle demandait comment ça se passe, un IG, si jamais sa fille va vers ça. Bref, ce que je trouvais touchant là-dedans, elle voulait tellement prendre soin de sa fille, là, qui était prise avec cette décision-là. Puis j'ai trouvé cette maman-là extraordinaire. Évidemment, comme l'autre situation, je sais pas hein, comment ça s'est passé après le rendez-vous. Par contre, c'est une des situations dans lesquelles, quand j'ai dit au revoir à la jeune femme de 18 ans. Je me sentais vraiment sereine avec notre au revoir. Je savais qu'elle était en bonne main. Je savais qu'elle avait un soutien adéquat. Je savais qu'elle serait pas laissée à elle-même face à cette situation-là. Donc voilà.
Le soutien, hein?
Le soutien.
Ça change tout.
Absolument tout. C'est vraiment ça qui fait la différence. Puis je souhaite tellement à toutes les femmes de vivre ces situations-là de cette manière-là. Parce que des belles histoires, il y en a. Parce que des partenaires qui sont soutenants, qui sont compréhensifs. Puis tu sais, je veux dire, il y a plein de manières de soutenir, hein, guys?
Ouais.
Financièrement, on peut soutenir.
Ouais.
Hein, madame, là, elle a une couple de semaines peut-être à récupérer.
Ouais.
La petite boîte de chocolat, le petit café le matin, ça marche aussi, là. Hein?
Ouais, ça compte.
Le petit support émotionnel et physique qu'on peut apporter à un compagnon de vie qu'on aime, là, ça peut être simplement ça aussi.
Ben, ou même n'importe qui est dans notre entourage qui vit une interruption de grossesse. Ben, je pense qu'on pourrait prendre cet exemple-là en segue avec peut-être des petits conseils, des petites recommandations sur c'est quoi les bonnes choses à dire pour être un ou une allié dans la vie de quelqu'un qui vit une interruption de grossesse. Ça peut être juste de se montrer disponible pour la personne.
Ouais.
Peu importe son besoin, il est valide. Peut-être qu'il va avoir un processus de deuil qui va être entamé, dépendamment de la personne, ou vraiment pas. Tu sais, ça peut être aussi une célébration, là.
Absolument.
Genre, on pourrait faire un party, là. On pourrait faire un gâteau puis souffler des chandelles, là, littéralement. Ça pourrait être le contraire aussi. On pourrait écrire une lettre, on pourrait enterrer quelque chose, on pourrait, tu sais, les deux sont possibles. Puis vous, votre job là-dedans, tu sais, votre rôle là-dedans, c'est juste de proposer des idées, de demander à la personne est où sur le spectre tout ça, tu sais. Répéter que c'est son choix. Son choix, c'est celui qui est le bon. C'est elle qui décide. C'est ça, se montrer vraiment comme selfless dans le truc.
Ouais. Je pense que c'est ça, des fois, qui est bien difficile. Hein. Tu sais, ces personnes-là, souvent, autour de nous, on les aime, on est soucieux, soucieuse de cette personne-là, de ce qu'elle vit. Des fois, c'est facile de venir mélanger nos valeurs à nous, nos espoirs à nous.
Mais oui, la madame qui voulait être grand-mère, là, tu sais.
Ah, c'est un exemple parfait pour ça, tu sais.
S'il y a bien un moment dans la vie où il faut que tu t'oublies toi-même, c'est quand quelqu'un d'autre est en train de vivre quelque chose comme ça ou doit faire un choix comme celui-là.
Exact.
Parce qu'on ferait pas le même choix.
Mais non, on n'est pas la même personne.
Et pas pour les mêmes raisons non plus. Tu sais, c'est ça. Faut juste être là pour la personne. Puis, comme tu dis, peut-être l'aider dans son ambivalence, l'aider en lui posant des questions.
Comment on peut la soutenir? Comment on peut l'aider?
Puis, tu sais, si t'as un partenaire qui est capable de reconnaître sa culpabilité, reconnaître ça.
Sa responsabilité, en fait.
Oui, c'est ça. Tu sais, reconnaître ça. Puis, tu sais, la soutenir, oui, moralement, mais je pense physiquement aussi. Ta partenaire doit se déplacer 2 fois, par exemple, pour aller à la clinique. Prends donc congé pour y aller. Évidemment, là, je dis ça de ma position de privilège que t'es capable d'avoir congé à ta job. Mais tu sais, si elle est obligée, en fait, de prendre congé pour aller à des rendez-vous, ben toi aussi, sois là, puis vis toutes les étapes avec elle. Tu peux pas vivre la douleur, probablement physique, mais je veux dire, tout le reste, tu montres que t'es là. Je pense que ça peut déjà être un grand pas.
Ouais, être présent.
Avoir une responsabilité partagée, ça diminue tellement le poids sur les épaules de la femme qui doit passer à travers ce processus-là. Puis des belles histoires où est-ce que le partenaire, il avait pas d'opinion sur la situation, puis il a été là quand même, tu sais. J'en ai eu des belles histoires de jeunes femmes, là, des ados, là, que leur chum était là. Ils savaient pas trop qu'est-ce qu'ils avaient à faire là, parce qu'ils savaient comme pas comment l'aider, comment la soutenir là-dedans. Puis la rencontre d'ambivalence a permis ça aussi, là.
Mais c'est correct, oui, c'est correct de pas savoir trop.
Non, pas besoin de tout savoir. Mettre la tête,
tout ça, exact. Juste être présent, pas s'effacer, en fait.
Exact.
Efface-toi pas du truc.
Ou se pousser, ça. Pousser, c'est bien, là.
Disparaître, genre, ghoster, là, ça, c'est des no-no.
Je pense que c'est important aussi d'écouter les ressentis des deux personnes. Puis le après, regarde, j'ai l'impression que c'est pas juste, c'est moi qui vis tout ça physiquement. Toi, tu vis rien, c'est vraiment injuste. Mais juste de dire, t'as raison. Tu sais, comme de laisser la personne exprimer ses ressentis-là, parce que, par exemple, si t'es en couple, puis tous ces ressentis-là restent à l'intérieur de ta partenaire, ça va ressortir dans 5 ans ou dans avant, tu sais, que tout ce qu'elle a ressenti puis qu'elle a gardé en elle parce qu'elle t'en voulait, là, tu sais. Fait que je pense que de laisser ça sortir.
Travailler là-dessus, le reconnaître, juste le valider.
Tu sais, faut voir l'interruption de grossesse comme n'importe quelle épreuve qu'un couple passe, là. Je veux dire, le soutien est nécessaire à toutes les étapes quand même, parce que quand t'aimes quelqu'un, en tout cas, dans ma vision à moi, là, c'est une utopie, là, mais tu sais, dans ma vision à moi, d'un couple, puis d'un companionship, puis d'un partnership, c'est on a fait ça ensemble, on va passer au travers ensemble, puis c'est souvent ça que les femmes veulent et recherchent. Puis quand ça vient pas du partenaire, parce que bon, parfois le partenaire, bon, si c'est un one night par exemple, puis la femme, elle connaît même pas ce gars-là, puis elle veut même pas l'impliquer là-dedans, c'est bien correct aussi. Mais tu sais, la meilleure amie, l'ami, la famille, la mère, le père, le ces gens-là qui sont autour d'elle, c'est peut-être une responsabilité qui est facile à prendre, mais juste avoir une attitude soutenante, non jugeante, c'est la base. Puis si on a ça, honnêtement, là, on est vraiment bien parti, parce que des histoires où est-ce que ça va bien ou pas bien, il y en a plein, hein, ça peut pas être parfait tout le temps, sauf que quand ces deux aspects-là sont là, le respect puis le non-jugement, d'habitude, là, on est bien parti quand même.
Ouais, puis tu sais, de dire à la personne, comme ça, mettons, en tant qu'amie, c'est comme, peu importe la décision, tu décides de garder le bébé, je vais être là aussi. Tu décides de pas avorter, je vais être là aussi. Tu sais, dans le sens comme, prends pas ta décision en fonction des autres, mais des fois, de le valider auprès de la personne, c'est comme, oh, ok, un poids de moins sur mes épaules.
Exact.
J'aimerais peut-être terminer l'épisode avec des petites ressources, des endroits où on peut aller. Encore une fois, faut faire attention, il y a certaines ressources qui peuvent, tu sais, avoir une façade de beau choix, mais finalement, sont pro-vie ou il y a comme un, sont associés à des trucs religieux qui pourraient vouloir influencer notre choix. Fait qu'il faut faire attention. Mais en général, les milieux hospitaliers, les CLSC, tout ce qui est comme clinique des femmes, c'est des bons endroits où peut-être commencer le processus. Il y avait Grossesse Secours, SOS Grossesse, puis page web T'as raison. taraison.ca. On va toutes mettre ces ressources-là dans nos show notes.
Les pages du gouvernement du Québec, ils ont toutes les cliniques. Donc là, déjà là, tu sais que c'est des vraies cliniques.
c'est pas des cliniques. Oui, puis c'est safe, puis c'est pro-choix.
Exactement. t'as la Fédération du Québec pour le planning des naissances, t'as Action Canada pour la santé et les droits sexuels, Éducaloi aussi, hein, pour, par exemple, si t'es une personne en bas de 18 ans ou en bas de 16 ans, qu'est-ce qui se passe dans ton cas? Ça, c'est une bonne ressource aussi.
Fait, faut pas hésiter, en fait. Faut se donner le droit de se donner le droit.
Ouais, c'est bon, ça.
Puis faut se rappeler que c'est une femme sur trois qui va vivre une interruption de grossesse dans sa vie. Je veux dire, une personne sur trois, on connaît toute quelqu'un.
C'est ça. Regardez les femmes autour de vous, là, puis dites-vous, il y en a une sur trois que je connais là-dedans qui a vécu ou va vivre une interruption de grossesse à un moment donné. C'est fou, là.
Ouais.
C'est, je trouve ça dédramatise un peu le truc, là.
On espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre davantage sur les interruptions de grossesse. On espère avoir pu vous outiller à mieux comprendre toutes les subtilités d'un avortement et surtout d'être en mesure de soutenir une personne de votre entourage qui aura tôt ou tard besoin d'un avortement dans sa vie. On en parle beaucoup dans l'actualité, avec toutes les horreurs liées à la justice américaine, et on ne peut pas terminer l'épisode sans la fameuse citation de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Bon, plus on en parle, moins l'avortement devient tabou, plus il sera difficile de nous enlever ce droit. Merci Julie d'avoir partagé avec nous tes expériences, tes réflexions à propos de l'interruption de grossesse. On se souhaite qu'il devienne de moins en moins tabou. Sur ce, bonne semaine!
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout,
faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous!
Bye!